Chapitre 35. Prise de pouvoir. Aumont avait effectué toutes les actions des dernières 48 heures dans une sorte de dédoublement de lui-même. Une part de lui concevait rationnellement les actions, prenait les décisions, gérait le temps, puis effectuait les actions prévues, mettait en action les décisions prises, mécaniquement. Et une autre part de lui-même bouillonnait, frémissait d'excitation, de peur, d'incrédulité, de culpabilité, d'incertitude, de regret. La trahison n'était pas si facile. Il pensait de plus en plus souvent à Aymeric qui avait compris ça avant lui. Mais sa raison lui dictait sa conduite. L'oppression des bas citoyens devait prendre fin, et elle ne prendrait fin que par la violence. Il était à la fois convaincu de la justice de sa cause et tourmenté par les moyens qu'il fallait mettre en œuvre. Le mensonge l'écœurait. Il aspirait de tout son être à hurler sa foi en pleine lumière, et le moment de prendre les armes, bien qu'il le redoutât, lui apparaissait également comme la fin libératrice de ce double jeu qui lui était devenu un supplice. Sa tension était si intense pendant la journée qui précédait le soulèvement qu'il mangea à peine et ne dormit pas. Et maintenant, il se tenait à l'emplacement convenu avec Keller, aux abords de la guilde du pouvoir. Le bâtiment avait quelque chose de désagréablement impressionnant. Il semblait lui murmurer « Qui es-tu pour imaginer un seul instant faire tomber ces murs centenaires ?» Il était comme un mur au pied duquel il était acculé, prisonnier de sa verticalité, de sa masse énorme, de sa beauté froide et éternelle. Il avait ses quelques alliés de la branche active dans son champ visuel. Tout comme lui, il feignait de lire ou de bavarder, mais leur nervosité se trahissait par des regards furtifs, des gestes compulsifs, des frissons soudains. Lorsque la rumeur des premiers affrontements se fit entendre, Aumont crut qu'il allait défaillir. La réalité advenait, alors qu'une part de lui-même n'y avait jamais cru. Et maintenant il était trop tard pour douter, pour pleurer la cité d'Albâtre. Il savait qu'Aélénor aurait sans doute tout fait pour épargner la haute ville qu'elle aimait autant que lui-même. Mais ces bas citoyens, écrasés par ces décennies d'oppression, sauraient-ils arrêter leur coup ? Dans un coup d'œil tourbillonnant qui le porta près du malaise, il embrassa tous les bâtiments, toutes les statues, tous les jardins qui l'environnaient, et pressentit que cette calme beauté serait bientôt la proie des flammes. Puis, lorsqu'il vit les premières escouades, le temps sembla changer de cadence, et les actions s'enchaînèrent dans sa conscience et dans son corps, sans laisser aucune place aux sentiments. Les membres de la guilde de l'ordre semblaient en grande difficulté, même s'ils opposaient encore une farouche résistance. Les hauts citoyens, pour la plupart, refluaient dans leurs intérieurs marbrés, dont les fenêtres semblaient concentrer tous leurs regards effarés. Il ne restait plus que les acteurs du drame, les gardes, les insurgés, et lui-même et sa poignée de militants désorientés, en butte pour la première fois de leur existence à la violence, à l'imprévu, au danger. Quelques gardes pourpres leur crièrent de rejoindre les autres civils. D'autres, moins assurés, leur demandèrent de les aider à contraindre les insurgés. L'escouade de Fly les rejoignit pourtant, avant les autres, et leur fit reprendre leur esprit. « Les dirigeants sortent, c'est à vous de jouer », souffla Fly, en détournant le regard pour échapper à la contrainte des plus puissants de ses ennemis. Le ministre, accompagné des plus hauts dignitaires de la guilde du pouvoir, dévalait les escaliers. Leur visage, habitué à la pompe cérémonielle, à l'impassibilité et au commandement, était en quelque sorte défiguré. Certains conservaient leur dignité, tandis que d'autres semblaient déformés par un rictus grotesque. Aumont prit une profonde inspiration et poussa le cri de ralliement. Au coin de son champ de vision, les 6 membres de la branche active sur lesquels il pouvait compter allumèrent leur pierre frontale au même instant. Les représentants du pouvoir, encore dans les escaliers, restèrent un moment décontenancés, incapables de réagir aussi vite que la situation l'eût exigé face à une trahison qu'ils n'avaient pas envisagée. Ils s'étaient préparés à contraindre des brutes, pas à lutter contre l'esprit de hauts citoyens. « Rendez-vous !» hurla Aumont de sa voix de verbe, laissant couler un flot de lumière bleu nuit devant lui. « Vous avez perdu le contrôle, toute résistance est inutile !» Relayé par la voix de ses 6 compagnons, ces mots formaient une cacophonie étrange, une litanie presque dénuée de sens, mais dont le son s'amplifiait et venait étourdir les dignitaires éperdus. « Écoutez-moi !» hurla le premier ministre, tandis que sa pierre frontale rouge flamboyait, et il eut soudain l'attention de tous. Aumont vit toutes les têtes des gardes et de ses propres alliés se tourner vers lui, mais remarqua que les bas citoyens, qui ne comprenaient pas la langue noble, n'en avaient cure. Il songea que si le ministre parlait en langue vulgaire, La puissance de son verbe maîtriserait tous les belligérants en quelques secondes. Mais le ministre n'eut pas cette présence d'esprit et formula sa contrainte en langue noble, ce qui perdit la haute ville aussi sûrement que s'il en avait livré les clés. « Jetez vos armes et arrêtez les hostilités !» Le ministre se rendit compte de son erreur presque au moment où il prononçait ces mots. Les hauts citoyens engagés dans le combat jetèrent unanimement leurs armes et les bas citoyens mirent plusieurs secondes à comprendre ce qui se passait. Aumont n'attendit pas que le ministre reprenne ses esprits. « Taisez-vous » commanda-t-il, en mettant dans son injonction toute la puissance qu'il pouvait. Et il entendit le cœur de ses alliés qui reprenait son injonction en l'amplifiant jusqu'à l'étourdissement. Les dignitaires se regardaient, désemparés. Certains parvenaient à parler, mais aucun à s'exprimer publiquement. Entre tous, le ministre paraissait défait, écrasé sous le poids de sa propre incompétence. « Il ne vous sera fait aucun mal, » déclara Aumont. « Bâillonnez-les, liez-leur les mains, » ordonna-t-il aux bas citoyens. Fly lui adressa un regard soulagé, où scintillait un amusement presque enfantin. « Beau travail, » commenta-t-il. Aumont se permit un sourire. Un peu de la tension retombait, alors qu'il voyait autour de lui les combats s'arrêter et la guilde du pouvoir tomber entre ses mains sans qu'il eût besoin de verser une seule goutte de sang. Cela ressemblait à un rêve, mais il le savait, le plus difficile commençait maintenant. « Il faut sécuriser l'ensemble des quartiers, lâcher les papillons au plus vite et réunir une cellule de crise. Les premières décisions doivent tomber sans retard. »« À vos ordres, » répondit Fly sans ironie. Et il constata que ses alliés de la branche active, pareillement, semblaient attendre leurs instructions de lui. Il eut envie de leur crier qu'il n'était pas leur chef, puis il se ravisa et commença à donner des ordres. Il fallait bien que quelqu'un le fît, et aucune autre personne ne le ferait aussi bien que lui. Chapitre 36. L'aube du carnage. Les nuits à la cité monastère étaient en général calmes et bruissantes à cette saison. Lorsque la lune était ronde, comme c'était le cas ce soir, on pouvait distinguer la vallée et le vol des rapaces nocturnes. Le bruit de la centaine de respirations de la communauté se fondait dans le souffle du vent, le murmure des eaux ruisselant de la montagne, la musique paisible de la nuit. Naïma avait toujours aimé veiller alors que les siens se reposaient et profiter solitaire des extases muettes de la nature. Tout à coup, sans qu'aucun de ses sens ne pût expliquer pourquoi, l'harmonie totale de l'instant se brisa. Elle tenta de projeter son esprit vers le monde et n'y trouva plus la totalité parfaite qui l'englobait tout à l'heure. Le monde était devenu le terrain d'une volonté ennemie, il se pliait à cette volonté comme sous l'effet d'une tempête. Il était l'autre. Au même instant, les paupières de la plupart des membres de la communauté s'étaient ouvertes et leur esprit en alerte s'était brusquement dégagé des torpeurs du sommeil. Ils furent auprès de Naïma en quelques minutes à peine, scrutant l'horizon silencieux, communiant dans le même pressentiment, la même certitude et la même interrogation. Laerte s'adressa à Naïma d'une voix calme. « Réveille les enfants et emmène-les dans la montagne. »« Pourquoi moi ?» demanda Naïma. « Je suis une donneuse, j'ai l'âge de donner ma vie. » « Laerte a raison, » dit Salim, qui était également de l'âge du bâtir. « Nous avons tous l'âge de donner notre vie, sauf les enfants. Fais vite, Naïma. » Naïma se rendit compte que le temps pressait. Elle adressa un dernier regard à la communauté, qui s'était tranquillement détournée d'elle et se rassemblait maintenant dans la place ronde. Elle s'élança dans le quartier du devenir et réveilla à la hâte la vingtaine d'enfants endormis. Seuls les plus grands avaient ressenti la distorsion dans l'harmonie. Naïma les pressa d'une main douce mais ferme et docile, les plus petits suivirent les plus grands sans poser de questions inutiles. Elle les fit sortir par la poterne arrière de la cité et leur demanda de courir aussi vite qu'ils le pourraient, puis d'attendre qu'elle les rejoigne. Elle avait encore une dernière chose à faire. Dans la place ronde, la communauté avait adopté la position de la méditation collective. En trois cercles concentriques, ils s'étaient disposés. Ils avaient laissé leur esprit individuel se fondre dans l'esprit collectif et avaient commencé à léviter, flottant légèrement au-dessus du sol, parfaitement silencieux. Puis leur voix de verbe s'était mise à résonner, à l'unisson, tandis qu'ils entonnaient le chant des défenses. Naïma, mue par un pressentiment inexplicable, s'approcha de la bibliothèque et murmura « Brûle !» Puis elle se fondit dans les ombres de la montagne et se soutint par l'esprit pour rattraper les enfants et les emmener le plus loin possible de la cité. Pendant ce temps, Sorna rallongeait le pas et traçait son chemin à travers la montagne comme une foudre rampante. Lorsque les papillons s'approchèrent de lui, sa pierre frontale tremblota et de sa bouche il émit une série d'ultrasons qui les firent fuir dans un battement d'ailes affolé. Il atteignait au but et il supposait que l'affrontement ne lui prendrait pas plus de quelques minutes. Ces imbéciles de spiritualistes avaient renié la violence pour leur perte et ils s'opposaient à lui, ce le serait à leur manière passive et suicidaire. Sornard ne les comprenait pas. Lui qui s'était engagé sur la voie de la vie éternelle, de la conscience individuelle sans limite, il méprisait leur erreur fanatique qui consistait dans le don de soi. Pour Sornard, il n'y avait rien de plus stupide que le don de soi. L'être n'était pas fait pour se donner, mais pour prendre. La porte d'entrée apparut alors que les premières lueurs de l'aube pointaient derrière la montagne. Sornard se sentait serein, au sommet de sa puissance, et sa longue marche rapide n'avait pas entamé ses inépuisables réserves d'énergie. Il fut un peu surpris de ne voir personne au-devant de lui. Il s'était attendu tout de même à ce que ces idiots eussent été alertés de son arrivée, ainsi qu'à une sorte de dialogue vain. Mais il pénétra dans la cité sans rencontrer âme qui vive. Il se laissa guider par le chant. Les spiritualistes, comme ses propres disciples, avaient donc finalement maîtrisé les techniques de l'esprit collectif. Ce n'était pas très gênant, mais leur unisson était intéressante. Inutile, mais intéressante. Ce fut ainsi que Sornard les trouva, lévitant doucement, en trois cercles concentriques, au milieu de leur village austère qui ressemblait déjà à leur tombeau. Il se sentit déstabilisé par le chant, à peine quelques secondes, mais suffisamment pour admirer sa puissance. Puis il concentra son esprit, et ce fut comme un énorme rayon violet, beaucoup plus intense que les timides clartés de l'aube qui balaya la communauté. L'attaque de son esprit avait été violente et rude. La méditation collective fut instantanément rompue. Sornard estima leur nombre à environ 75 et décida de se débarrasser tout de suite des 40 personnes qui formaient le cercle extérieur, des vieillards et des jeunes gens, pour la plupart. Il resta à plusieurs mètres d'eux, mais son regard choisissait ses proies avec la précision d'un instrument de tir. Un à un, les donneurs et les jouisseurs qui composaient le cercle extérieur s'écroulèrent, certains en criant, d'autres sans un soupir. Les bâtisseurs des cercles intérieurs recréèrent presque immédiatement la méditation collective, et le bourdonnement de leur chant parvenait déjà aux oreilles de Sornard lorsqu'il en eut fini avec sa première vague de victimes. « Taisez-vous » enjoignit-il par télépathie. Mais les spiritualistes, renforcés par la reconnaissance de leur ennemi et par la certitude de la mort, ne se turent pas. « Je cherche le codex Necromantis. Vos existences misérables me sont égales. » La méditation collective s'interrompit lorsque plusieurs des spiritualistes formèrent dans leur esprit un commencement de raisonnement individuel. Le codex Necromantis recèle un savoir maléfique qui ne doit pas tomber entre tes mains, observa calmement l'un des plus jeunes bâtisseurs. « Et aucun d'entre vous n'est capable de m'empêcher de m'en emparer. Tu dis vrai, Sornard, et c'est la raison pour laquelle mes frères et sœurs je vous invite à reprendre le cours de notre méditation collective. Je pourchasserai vos enfants et les réduirai en esclavage, menaça Sornard. La méditation collective reprit. Un chant différent cette fois, plus mélancolique, que Sornard identifia comme l'ancien chant de l'envol. Il fit un geste agacé de la main et darda son rayon destructeur sur chaque visage. Ils étaient impassibles et aucun n'abandonna la méditation collective. La herte fut parmi les premiers à tomber. Sornard n'avait pas de temps à perdre à fouiller le village de fond en comble et laissa en vie le dernier. « Va chercher le livre » articula-t-il d'un ton glacial. Le spiritualiste qui restait était à peine sorti de l'enfance. Pourtant, sa place au centre du dernier cercle le désignait comme l'un des plus puissants. Des larmes coulaient de ses paupières closes et par un effet de rémanence qui intrigua Sornard, sa voix qui continuait à chanter semblait, lors même que tous ses compagnons de méditation étaient morts, toujours multiplié. La communauté entière survit en toi, persuada Sornard. Pourquoi ne pas me donner le livre et assurer sa transmission ? Le jeune homme était maintenant nimbé de lumière changeante et lévitait de plus en plus haut. Meurs, pauvre idiot ! Le silence se fit, brusquement, avec l'obscurité. Sornard entendit le choc sourd du corps s'affaissant sur le sol et commença à lancer son esprit tout autour pour déceler d'éventuelles présences. Mais la cité était déserte. En dehors de lui, plus personne n'y respirait. Il s'apprêtait à retourner méthodiquement chaque pierre et chaque poutre lorsque l'odeur du feu le mit en alerte. Il se dirigea avec une rapidité surnaturelle vers le bâtiment qui brûlait. Il s'acharna quelques instants, mais ne parvint pas à maîtriser l'incendie par l'esprit. C'était un feu d'origine magique. Alors, maugréant dans sa solitude, il bloqua sa respiration et se précipita à l'intérieur du bâtiment, dont les nombreuses passerelles et escaliers en bois flambaient déjà généreusement. La moitié des volumes conservés ici étaient déjà embrasés, et des pages, corolles rougeoyantes, voletaient à travers la salle. S'il ne trouvait pas le codex nécromantis d'ici quelques secondes, son savoir inestimable serait perdu à jamais, au-delà de sa portée et de sa puissance, pour jamais. Une colère effroyable s'empara de lui, et il regretta soudain de n'avoir pas torturé à mort chacun de ces maudits spiritualistes. Puis il se ressaisit et concentra son esprit à son maximum d'intensité pour augmenter son acuité visuelle. Il parcourut les volumes du regard, une fraction d'instant chacun, évaluant leur aspect, leur volume, leur état de combustion, leur âge. Au terme de ce balayage visuel, il avait trouvé le rayonnage le plus probable et bondit au mépris des flammes qui commençaient à prendre sa toge et des fumées épaisses qui envahissaient ses poumons. Il envisagea un bref instant de devoir mourir ici, la main sur la clé de l'immortalité, et se cabra de tout son être contre cette éventualité. Sa pierre frontale, qui brillait presque aussi fort que les lueurs de l'incendie, finit par se briser en mille morceaux alors qu'il sollicitait l'esprit, bien au-delà des capacités humaines, pour survivre dans le brasier. Et enfin, il mit la main sur le codex, à la couverture noircie, mais miraculeusement intacte. Un dernier effort le fit sortir de l'incendie, et il perdit connaissance. Lorsqu'il recouvra ses esprits, le soleil était haut dans le ciel, et une âcre odeur de papier brûlé imprégnait l'atmosphère. Dans une pluie de cendres et de petites braises, l'incendie, faute de combustible, avait fini par s'éteindre. Sornar toussa et constata à cette occasion la douleur infernale de ses poumons. Il regarda ses mains, dont la peau n'était plus qu'une vaste brûlure, et toucha son crâne que le feu avait bourrelé de plaies et privé de ses cheveux. Ses yeux même le brûlaient affreusement et pleuraient des larmes continuelles. Il essaya de faire appel à l'esprit, mais se rendit compte qu'il était épuisé, vulnérable, sans défense. Quoi qu'il décidât de faire, il fallait se terrer jusqu'à la nuit. Il rampa péniblement jusqu'à une fontaine et but, entre deux étouffements, de longues gorgées d'eau. L'esprit l'aiderait à rejoindre les catacombes, l'esprit le soutiendrait encore quelques heures, et alors il pourrait quitter ce corps détruit. Chapitre 37. Amère victoire. Keller avait toujours pensé le soulèvement en termes de paramètres à ajuster, de stratégie d'ensemble, de victoire ou de défaite. Il n'avait jamais envisagé ce qu'il était en train de vivre. Il ne savait même pas si le soulèvement réussissait ou échouait. Il ne savait pas ce qu'étaient devenus les escouades des éclaireurs. Pour ce qu'il en savait, ils auraient pu aussi bien être les seuls à se battre devant leurs ennemis sans cesse renouvelés. Il n'y avait pas une seconde pour parler, pour penser, pour prendre des nouvelles. Chaque fraction de temps était absorbée dans le combat qui faisait rage, et la conscience était obstruée jusqu'à saturation par la matière brute et horrible de la guerre. Les cris de douleur, les grimaces de haine, les contusions, les crampes, la pluie de coups, l'odeur de la sueur et du sang, l'adrénaline, la fatigue, la rage de vaincre, la peur d'y rester. Il n'avait le temps de penser à rien, et son intérêt pour l'issue de la bataille, son inquiétude pour Aelenor, restait sur le bord de sa conscience. En attendant, il tuait. Et tuait encore. Il abattait sa lame sans même pouvoir compter le nombre de ses victimes. Il s'habituait à la mort, à ses visages grotesques, à ses râles, à ses éclaboussures immondes. Il avait à peine conscience de ces hommes derrière lui. La seule idée claire qu'il pouvait se formuler était qu'il progressait sur le chemin qu'il se taillait dans la chair humaine. Combien de minutes, d'heures s'étaient-elles écoulées depuis le premier affrontement ? Il était impossible de le dire, mais ils avaient remonté plus de la moitié de l'avenue principale, et dans une sorte d'éclaircie du combat, Keller put distinguer au loin la cohorte des femmes auréolées des papillons rouges. Il resta un moment comme hors de lui-même, debout, l'arme à la main, immobile. Autour de lui, les combats perdaient en intensité. Certains de ces hommes jetaient des torches enflammées dans les palais. À sa droite, l'un de ses plus solides guerriers traînait une haute citoyenne par les cheveux pour la violer. Des hauts citoyens épouvantés tentaient çà et là des actes de courage isolés. Ils recevaient la hache, la massue, le fer. Une tête roula à ses pieds. Une tête humaine. Keller tourna la tête lentement. Carnage, pillage, viol. L'armée du soulèvement devait être victorieuse pour se livrer à de telles exactions. « Maître Keller, Maître Keller, hurlait quelqu'un dans la masse indistincte des hommes et des femmes qui formaient les sujets vivants de cet horrible tableau. Keller tressaillit et reprit ses esprits. Le temps se remit à couler à sa vitesse habituelle, son esprit secoua la gangue de fatigue qui l'ankylosait. Il s'agissait du jeune Cardone. Keller éprouva une réelle joie à le voir là. « Cardone !» articula Keller avec un feu impérieux dans la voix. « Va du côté de la guilde du pouvoir, dis à Aumont qu'on a besoin de lui ici. L'armée se livre à des actes de barbarie. »« Maître, » balbutia Cardone, « nous avons gagné, n'est-ce pas ?»« Oui. Maître, que toutes les escouades se mettent à patrouiller dans la ville. Il faut remettre de l'ordre, éventuellement exécuter ceux qui se livrent à des violences inutiles. Ne laissez aucun homme inactif. » « Maître, » supplia Cardone, « votre femme !» Keller blêmit. « Parle, » murmura-t-il. Cardone ne savait pas par quel bout commencer. Il avait peur de la réaction de Keller et commença par bafouiller. « J'étais avec elle, enfin pas avec elle, mais à côté d'elle, c'est-à-dire à quelques mètres, parce qu'elle voulait être seule. Elle a refusé l'assistance de la vieille, et puis il y a eu ce haut citoyen tout vêtu de noir, avec sa voix caverneuse. » La voix de Cardone était en train de se briser. Keller l'encouragea muettement d'un geste de la main. J'ai voulu la protéger, j'ai vraiment voulu, mais il était si puissant que je ne pouvais rien faire, maître Keller. Il m'a poussé en arrière sans même me toucher, par une sorte de sorcellerie, et la dame la suivait en soutenant son ventre. La vieille disait que le travail avait déjà commencé. Qui était-ce? À quoi ressemblait-il? Il ressemblait un peu à la dame, maître Keller, mais tous les hauts citoyens se ressemblent tellement. Et puis il avait une robe noire, toute noire, et il paraissait mauvais. Sais-tu où ils sont allés, Cardone? L'homme, maître Keller. Il a dit de vous dire que vous ne les reverriez jamais, ni elle, ni votre enfant. » Keller prit une profonde inspiration. « Cardone, te souviens-tu des ordres que j'ai donnés ?»« Oui, maître. À Aumont, il faut sécuriser la ville, occuper les hommes, faire des patrouilles, exécuter les fauteurs de troubles, faire revenir l'ordre. »« Dis-lui qu'il se débrouille sans moi, Cardone. Explique-leur pour Eleanor. » Keller jeta ses armes à terre et se ferma à tout ce qu'il voyait, à tout ce qu'il entendait. Ses jambes le portaient à travers la foule chaotique qui se pressait, à travers les massacres gratuits, et l'emmenèrent jusqu'à la porte ouest, qui était déserte. Il n'eut pas un regard pour la ville, ni pour le nuage compact des papillons qui commençaient à la recouvrir. Son esprit était ailleurs. L'homme qui avait enlevé à Eleanor était un frère sombre, peut-être Sornard, mais plus probablement Joris, le frère d'Eleanor. Il n'était pas de taille à lutter contre eux, il n'avait pas le moindre indice de leur cachette, il ne savait pas ce qu'ils tramaient. Il n'avait qu'une seule chance de la retrouver, une seule minuscule chance, et il fallait faire vite. Il marcherait sans s'arrêter, il soignerait ses blessures plus tard, il allait trouver les spiritualistes, et les spiritualistes la sauveraient. Il ne pouvait pas en être autrement.